Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Céline Lamontagne de l'organisme Les Impatients. Elle vient nous présenter le coffret 1000 mots de voyage à l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet anorexie et faux concepts. Notre collaborateur en début de deuxième demi, Jocelyn Morettini, vient nous parler de télépsychologie. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Thérapie Taxi. La chanson s'intitule Candide de Crush. Vous écoutez l'émission numéro 792.
Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance
sur moi.
Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance.
Je sens les bagues qui me montent à la tête. Et je dis vague, vague dans la fumée, dans la fête. Je me suis offerte au luxe de tes mains. Je me vois trembler sans amour demain. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire.
Vous êtes branché sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Mme Céline Lamontagne. Bonjour, Mme Lamontagne.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission Folie douce.
Plaisir.
Oui, vous êtes conseillère pour les impatients de cet organisme qu'on entend parler depuis plusieurs années, qui est toujours aussi dynamique.
Hein? Oui, c'est très vrai.
Ça bouillonne de projets.
Hein? Une chance. On existe depuis 1992. En fait, les impatients ont été fondés en 1992.
Oui.
Et c'est un organisme qui s'occupe d'offrir des ateliers d'expression artistique à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant avec les impatients, c'est que c'est très créatif. Il y a des ateliers en art visuel, il y a des ateliers en bande dessinée, il y a des ateliers de musique qui sont offerts à des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui sont référées par leur médecin, leur psychologue, leur travailleur social ou autre personne. Et on a en fait 15 ateliers dans 10 villes, dans 15 lieux d'ateliers dans 10 villes au Québec.
Ouais.
On a 60 ateliers par semaine, en fait, qui se tiennent et ça ouvre les services à 750 participants par semaine.
Et qu'est-ce qui est votre... Tu sais, parce qu'on fonde un organisme à un moment donné, ça évolue. Qu'est-ce qui tient? Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui dit les impatients, c'est ça, genre, on veut, par exemple, je sais pas, moi, ben, tu sais, vous parlez d'art, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous c'est un peu votre...
Le leitmotiv?
Oui, le leitmotiv,
Le leitmotiv, c'est effectivement la création.
Oui.
Alors, la création en liberté, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous et... ont des projets créatifs. Alors donc, il y a des ateliers qui sont libres. On peut leur donner un thème. On peut dire, bon, ben on va créer des fleurs. Vous les faites comme vous voulez.
Ouais.
Et il y a toujours un animateur qui supervise les ateliers, qui accompagne, si vous voulez, les impatients durant les heures d'atelier. Et donc, les ateliers produisent des œuvres, les impatients produisent des œuvres, qu'ils conservent s'ils le veulent, sinon ça va aux impatients. Et on fait des expositions qui permettent, en fait, aux impatients, et ça, je pense que c'est très important, ça permet aux impatients, les ateliers en soi permettent aux impatients de sortir de leur isolement. Ça leur permet aussi de côtoyer d'autres personnes, d'échanger avec eux autres. Et quand on fait les expositions puis on expose leurs œuvres, bien c'est bon parce que les impatients invitent des amis, invitent la famille. C'est une bonne façon de parler avec d'autres, de montrer ce qu'on a fait. On est fiers. Et il y a eu des études, je fais du coq à l'âne, mais il y a eu des études qui ont été faites disant que les impatients, c'était une bonne référence en matière de santé parce que ceux qui fréquentent les ateliers disent que leur santé est améliorée. Alors, si ça, il y a eu une étude scientifique qui a été faite à ce propos.
Donc, ça démontre prouve, ça. C'est pas juste l'impression. On sait déjà que ça semble faire du bien, mais c'est prouvé. Là.
Ça a des effets bénéfiques.
Ouais.
Et on essaie de varier, si vous voulez, les activités. Et on va parler, je pense, du projet...
Du coffret,
mais le mot de voyage.
Oh, oui, c'est
ça. Et ça, c'est un projet d'écriture et de représentation en images, de dessin. Qu'on a présenté et que les impatients, pour lesquels les impatients ont travaillé.
Oui, mais aller justement au coffret, mais les impatients, on nous l'avait déjà expliqué, je pense, la fondatrice nous l'avait expliqué.
Mme Palardy,
qui nous avait expliqué ça. Mais les impatients viennent de où? Pourquoi avoir donné le nom des impatients aux gens qui sont là? Parce que c'est des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale.
C'est vrai. En fait, les impatients, c'est à l'origine de la Fondation de l'art brut et de l'art thérapeutique du Québec. Mais comme vous le constatez avec moi, Fondation d'art brut et d'art thérapeutique au Québec, ça fait un peu...
C'est un peu long.
Puis peut-être un titre un peu rébarbatif.
Moins marketing, peut-être.
Oui, c'est ça. Et ils ont fait une réunion, le conseil d'administration, et il y a un des conseillers qui a dit « Pourquoi qu'on n'appellerait pas ça impatient? » Après plusieurs heures et plusieurs de cogitation. Et ça vient aussi de la fleur, l'impatience, qui... Malgré qu'elle croit à l'ombre, elle fleurit. Alors, c'est un peu comme un impatient.
C'est un peu comme l'inverse des patients. T'sais, on parle souvent des patients au lieu de la santé mentale ou de la santé, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Puis, ils sont impatients de guérir, ils sont impatients de sortir de l'ombre.
Ils sont impatients de créer, peut-être.
Exactement.
Tu sais.
C'est ça,
c'est intéressant.
Fait, oui.
Mais justement, le coffret dont vous nous parliez à l'instant, parce qu'à chaque année, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit les lettres d'amour, il y a toujours un projet intéressant. Puis, ça, c'est peut-être la première fois, en fait.
C'est la première fois. Pendant 10 ans, on a fait un coffret de lettres d'amour.
Ouais.
Et l'année passée, on s'est dit, bon, là, il faudrait qu'on innove, qu'on essaie de faire autre chose. Et il y a une impatiente, Gaëtane Lupien, qui a dit, moi, j'aimerais beaucoup voyager, mais je ne peux pas voyager maintenant, mais je voyage en couleur et en imaginaire. Et ça nous a donné l'idée de quitter le coffret de l'aide d'amour et de faire un coffret de voyage.
Ouais.
Alors, le voyage qui peut être en couleur, qui peut être en imaginaire, qui peut être le voyage dans sa rue, sortir de sa rue, qui peut être le voyage dans un autre pays, dans une autre ville. Alors, des impatients sont invités à parler de leur voyage. Et il y a des artistes, des personnalités publiques aussi qui participent au coffret.
Comme c'était le cas pour les lettres d'amour.
Exactement. C'est un peu sous le même principe, mais ouais. Il apparaît différemment. Ça reste sous le format d'un coffret. Mais à l'intérieur, cette année, avec le 1000 mots de voyage, on innove parce qu'il y a des cartes postales, il y a des beaux dessins. On peut envoyer des cartes postales à des gens. Vous allez voir, c'est vrai. Et c'est très coloré. Mm-hmm. C'est très vivant. Et les récits sont très attrayants.
Et intéressants. Qui n'aime pas les voyages ou se faire raconter des voyages? Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'aime pas ça. Là. Oui. Même les gens, comme vous le disiez tantôt, qui n'ont pas la chance ou la santé pour voyager. Mais ils aiment des fois entendre, lire, voir des choses sur les voyages.
Oui, puis ils aiment s'imaginer aussi c'est quoi le voyage d'une telle personne, puis eux, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils voyageaient, puis qu'est-ce qu'ils penseraient faire. Alors, c'est
vous avez un créneau peut-être pour les 10 prochaines années, parce que je trouve qu'il y a vraiment du matériel intéressant.
Il y a beaucoup de matériel, mais c'est ce qui est intéressant, c'est dans le coffret de 1000 mots de voyage, c'est que ça a permis à des impatients d'exprimer c'était quoi pour eux faire un voyage, et ça a permis aussi à des artistes, des écrivains, des photographes, de nous montrer ce qu'ils voyaient, eux, comme un voyage. Ou, en fait, des journalistes. Il y a des journalistes qui ont participé aussi au coffret 1000 mots de voyage. Et ça aussi, c'est intéressant de voir c'est quoi leur approche à eux.
Les gens ne se font pas prier trop longtemps, je pense. Il y a beaucoup d'intérêt. Tu sais, les gens qui sont un peu plus connus, qui peuvent justement, par leur présence, peut-être mousser un peu les récits doivent être très intéressants des impatients, mais aussi d'avoir quelqu'un de plus connu, ça ne nuit pas à ce genre de
coffret-là. Je pense que c'est bon l'arrimage des deux.
Ouais, les deux,
c'est une belle jonction des deux.
Et se côtoie, puis c'est
oui,
ça.
Oui, c'est bien de voir la différence aussi des récits, l'imagination de chacun. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, avec le coffret, c'est qu'on peut le mettre sur le coin de son bureau. On n'est pas obligé de le feuilleter tout d'un coup. On peut prendre une feuille de temps à autre et lire ce qui est écrit. On peut le laisser là et le reprendre le lendemain ou le surlendemain.
Parce que c'est pas un livre, c'est ça. C'est sur le même format que les lettres d'amour. Dans le fond, c'est plusieurs fiches, des feuillets, donc c'est facile à...
Exactement. Et cette année, dans ce coffret-là, c'est qu'il y a des cartes postales. Alors donc, on peut en choisir une et on peut l'envoyer à un ami ou on peut, en fait, la garder ou la mettre sur son réfrigérateur ou...
Ouais.
Alors, c'est ça qui est intéressant.
Dans le financement des impatients, je pense que ça compte beaucoup aussi, ce genre de projet-là, parce que à quelque part, on parle souvent d'argent, tu sais, dans n'importe quelle organisation, mais en santé mentale particulièrement, qui est le parent pauvre de la santé, on a besoin d'argent, puis pour que l'organisme fonctionne bien, je pense que c'est un apport.
Oui, vous avez bien raison, parce que la santé mentale, c'est sujet tabou, donc souvent, c'est difficile d'avoir des sous. Aux impatients, on fait différentes sortes d'activités bénéfices. Le coffret en est une, et avec tous les profits qu'on fait avec la vente du coffret qui est en librairie,
ouais.
En fait, ça va pour créer de nouveaux ateliers, pour qu'il y ait plus d'impatients qui puissent bénéficier de venir aux ateliers et de créer. Parce que l'objectif final, c'est ça, c'est de créer. Et s'il y a plus de personnes qui peuvent venir aux ateliers, ben c'est plus intéressant. Ça permet, c'est ouvert à plus de gens.
Est-ce que il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent chez vous, tu sais, des nouveaux impatients, si on veut, des nouvelles personnes qui aimeraient avoir recours au service, est-ce que c'est ouvert?
Oui, c'est ouvert. Et en fait, il y a une liste d'attente parce qu'effectivement, chaque atelier demande à ce qu'on engage un animateur,
ouais.
Et un artiste et quelqu'un qui va l'aider. Alors donc, on crée une liste d'attente. Les ateliers sont... En fait, les impatients, on est associés avec les hôpitaux. On est associés aussi avec des musées, avec des galeries d'art, parce qu'il faut qu'on fasse les ateliers en quelque part. Il faut qu'il y ait un lieu de création. Alors donc, aussi, ces endroits-là, en fait, on peuvent prendre les noms. Ou sinon, ben, on va sur le site des impatients et c'est indiqué comment il faut procéder.
Et on peut s'inscrire, donc c'est pas fermé. Là, les gens
on peut appeler et la dame qui est là peut prendre le nom de la personne et la mettre sur la liste d'attente. Et c'est à ce à quoi ça sert, en fait, la vente des coffrets, c'est de faire en sorte qu'on va avoir plus d'ateliers et permettre à plus de personnes d'y aller.
Et un peu partout au Québec aussi.
Oui, on a 15 lieux dans 10 villes au Québec.
Comme vous disiez.
Alors, on essaie d'en ouvrir dans le plus de villes possible.
Vous êtes depuis les débuts, hein, en fait, depuis la fondation des impatients, vous vous êtes impliqué à ce niveau-là, au niveau des impatients, à différents rôles. Vous êtes conseillère avec l'expérience que vous avez aussi, je pense que vous avez des choses intéressantes à dire.
Bien, effectivement, depuis la création, en fait, les impatients, c'est à l'origine de la Fondation des maladies mentales. Et donc, au tout début, j'ai commencé à faire du bénévolat à la Fondation des maladies mentales et ensuite pour les impatients. Et j'ai continué hein, et j'y travaille encore aujourd'hui.
Oui.
J'adore ça.
Et comment
parce que
vous...
c'est de la création.
Oui, et comment, Mme Malamontant, comment vous voyez l'avenir, en fait? Parce que je pose souvent la question, je l'avais posée à Mme Palardi. Mm-hmm. Souvent, dans un organisme, il faut s'occuper du présent, mais il faut voir où est-ce qu'on s'en va.
C'est toujours le même problème avec les OSBL, c'est qu'il y a toujours une question d'argent. Alors donc, il faut être inventif, imaginatif et voir comment on peut aller chercher des sous pour faire en sorte qu'il y a plus de monde qui puisse bénéficier des ateliers. C'est pas facile. Je vous dirais que c'est un ouvrage de chaque jour.
Ouais.
Il faut aussi talonner les gens. Il faut remettre ça sur le tapis à plusieurs reprises. Il faut venir dans les médias, justement, pour qu'on en entende parler. Au tout début, les impatients n'étaient pas connus.
Mm-hmm.
Ils sont de plus en plus connus. Mais c'est en parlant, en démontrant ce que l'on fait et en ayant de plus en plus d'activités, en invitant les gens où l'on est pour qu'ils voient ce que les impatients font, parce que c'est pas juste le coffret, il y a des expositions aussi d'œuvres d'art qui sont...
On peut les acheter.
Il y a certaines œuvres qu'on peut acheter, d'autres non. Et mm-hmm. vous savez, on a une collection d'œuvres de 15 000 œuvres aux impatients.
Alors, oh.
Donc, ce sont les œuvres qui sont faites durant les ateliers depuis la création, depuis 1992, et pour lesquelles les impatients ont donné leur aval.
Et vous pouvez trouver un lieu pour les héberger, ces œuvres?
Présentement, oui, mais vous savez, ça aussi, c'est un autre problème, parce qu'il y a des façons de les conserver,
ouais.
Il y a des exigences quant à la conservation, et ça demande beaucoup de sous. Alors ça, c'est une autre problématique d'argent.
Oui, c'est ça.
Mais c'est toujours, on revient toujours au même critère.
Mais quelque part, la logique fait aussi, on en parle à plusieurs invités, mais c'est vrai que les coûts, souvent, qui sont dépensés dans des organisations comme ça, sont moins importants que dans le milieu hospitalier. Fait que quand on peut prévenir... des problèmes de santé mentale, à quelque part, on en a pour notre argent de financer.
Oui, parce qu'on dit que si on investit en santé mentale dans des activités comme cela, bien, ça fait effectivement que ça nous coûte moins cher au bout de la ligne.
Oui.
Et ça évite des hospitalisations, ça évite la médication. Et si ça permet, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand je vois les impatients chez nous et qui jasent entre eux et qui s'échangent et qui se sentent bien, quand je les entends dire « Ah, on aime ça venir ici », bien, quant à moi, ça, c'est très significatif.
Effectivement. Il reste peu de temps, Mme Lamontagne.
Oui.
On peut mentionner encore une fois que les gens peuvent se le procurer, le coffret.
Oui, ils peuvent l'acheter aux impatients.
Aux impatients ou même en librairie.
Ils peuvent l'acheter en librairie aussi. C'est disponible dans toutes les librairies du Québec.
On peut rappeler le titre, donc c'est « 1000 mots de voyage ».
1000 mots de voyage,
et
oui.
Et des impatients, donc c'est vous-même
les
qui
éditions,
éditez.
Les éditions Les Impatients,
c'est
oui, c'est ça.
Merci
alors,
beaucoup.
Allez sur notre site www.impatients.ca.
Oui, merci beaucoup, Mme Lamontagne.
Merci de m'avoir invité. Donc, merci d'avoir invité les impatients.
Bien, avec plaisir, puis bonne continuation. C'est un beau projet. Puis je pense qu'on vous en met pour plusieurs années à publier.
J'espère qu'on va continuer,
de
puis qu'on va continuer à recevoir des sous aussi.
Oui, absolument, je vous le souhaite. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai passé la nuit devant du papier blanc à fixer le mur sur un lit trop grand. J'ai marché dans une ruelle encore endormie et me suis égarée dans un nuage gris. Étrangère sous mon propre toit, ma ville ne me reconnaît. Me
santé.
Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, c'est anorexie et faux concepts.
Exactement, oui, la fameuse anorexie.
Ouais.
On en a déjà parlé auparavant, on en parle beaucoup et on va sûrement en parler encore.
Ouais.
On trouve toujours des nouvelles choses sur... ce problème mental.
J'ai l'impression qu'on en a moins dans les médias depuis quelque temps. C'est peut-être juste moi, mais il me semble qu'il y a une époque où il y avait beaucoup anorexie, boulimie, tout ça. On entend aussi, mais tu sais, il n'y a plus vraiment de place pour toutes les problématiques, mais il me semble que c'est peut-être bon justement de ramener ça un peu dans notre émission. Là.
Alors, cet article s'appelle « L'anorexie, une maladie qui n'est pas que dans la tête
».
On découvre de plus en plus que ce n'est pas seulement quelque chose de psychologique, mais il y a peut-être quelque chose de vraiment physique en plus qui s'ajoute.
Okay.
Alors, c'est un article écrit par Mme Edoxie Allier, qui est journaliste à l'agence de presse médicale APM en France. Elle nous dit « L'anorexie mentale ne serait pas seulement une pathologie psychiatrique, mais serait aussi due à un dérèglement dans la façon dont le corps stocke et brûle son énergie. » Elle nous dit « C'est l'une de ces maladies qui garde encore une large part de mystère. L'anorexie mentale, caractérisée notamment par la crainte et le refus catégorique de prendre des kilos, a été longuement considérée comme une pathologie psychiatrique où tout se joue dans la tête. » Cette fameuse maladie où les jeunes filles...
Surtout les jeunes filles, il y a des garçons, mais c'est souvent les jeunes filles.
C'est surtout les jeunes filles qui veulent... ressembler à des mannequins, mais ça va.
Ils sont toujours trop grosses, puis c'est ça.
Mais ça va encore plus loin
c'est
que ça.
C'est un fléau, en fait, ça aussi. Je trouve que même en jeune âge, c'est ça.
Alors, une étude internationale récemment publiée dans la revue Nature Genetics vient pourtant bouleverser cette vision en mettant en lumière le rôle de certains gènes impliqués dans le métabolisme. Afin de mieux comprendre comment l'ADN des individus pourrait les prédisposer à développer la maladie, les chercheurs ont comparé le génome de près de 17 000 patients atteints d'anorexie mentale à celui de quelque 55 000 personnes en bonne santé. Mm-hmm. Ça fait du monde.
Ouais.
Les chercheurs ont alors découvert que les personnes atteintes d'anorexie possédaient plus fréquemment certaines mutations au niveau de 8 gènes, dont certaines associées à des troubles psychiatriques tels que les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie ou l'anxiété. Mais le plus inédit est que certains de ces gènes sont associés à la façon dont le corps stocke et gère l'énergie. Le professeur Philippe Gordwood, qui est psychiatre au Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris et co-auteur de l'étude, nous dit « Les variantes génétiques identifiées sont en bonne partie associées à des fonctions métaboliques de base. Ainsi, les personnes anorexiques posséderaient un métabolisme qui les rendrait moins susceptibles au diabète de type 2 ou à l'obésité et plus enclines à l'activité physique. La manière dont le corps gère ses stocks d'énergie pourrait donc être impliquée dans le développement et le maintien de l'anorexie. »
C'est encore ce qu'on dit souvent, la santé mentale ou physique, c'est toujours un tout, dans le fond. On ne peut pas voir ça comme en vase clos. Là. Puis c'est un peu ça que, même sur l'anorexie, c'est un peu la même chose.
Ouais, ça me fait penser à l'alcoolisme. Tu sais, y a des gens qui sont plus enclins à tomber
génétiquement ou à cause de leurs ancêtres, leurs parents, peu importe. Ouais.
Une découverte de taille qui permet d'ores et déjà d'étayer des hypothèses sur la manière dont la maladie débute. Le professeur Gorwood nous dit « L'anorexie se déclenche très souvent à la suite d'un régime restrictif volontaire. Il est possible que suite à cette privation, le corps déclenche un mécanisme morbide dû à une certaine génétique. » Ce même mécanisme pourrait entretenir la maladie. Le professeur Pierre Deschlotte, qui est psychiatre et chercheur, nous dit « L'anorexie va avoir tendance à s'auto-alimenter. » Il nous dit « Le trouble physique nourrit le trouble psychiatrique et inversement, c'est un cercle vicieux. Outre la perspective de nombreux traitements, c'est toute la façon d'aborder la maladie qui peut être repensée. » Et le professeur Cynthia Bolick, qui est psychiatre à l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, nous dit « Cela fait des années que, que les patients nous disent que ce n'est pas seulement psychologique et notre étude le montre. » Elle poursuit en disant « Cette étude nous permet d'envisager l'anorexie non seulement comme un trouble psychiatrique, mais aussi physique. » Elle peut aussi rassurer les patients sur la réalité corporelle de leurs troubles et surtout les déculpabiliser. Le professeur Howard Steiger, qui est psychiatre à l'Institut Douglas à l'Université McGill, lui aussi dit « L'un des aspects clés de l'anorexie mentale est la honte que ressentent les patients et leur entourage. On peut désormais leur expliquer que ce n'est pas leur faute. On ne devient pas anorexique parce qu'on est faible, mais parce que des événements de la vie ont déclenché des ressorts génétiques. Attention toutefois à ne pas sombrer dans le fatalisme. Si certaines familles sont plus fréquemment touchées par les troubles du comportement alimentaire, peut-être à cause de leur patrimoine génétique, il ne s'agit que d'une vulnérabilité, d'autant que la présence de ces variations génétiques ne permet de repérer effectivement que 5 % des patients. L'anorexie mentale étant multifactorielle, son déclenchement et son maintien font intervenir de nombreux processus biologiques et psychiques. Ainsi, le professeur Garwood nous dit « Pour les patients inquiets de la transmission du risque à la descendance, nous rappelons qu'elle reste faible, moins de 5 %, comme je le disais. » Il poursuit en disant « Les familles peuvent avoir une attention spécifique vis-à-vis de leurs enfants pour les protéger ou accélérer l'accès aux soins et donc d'améliorer le pronostic. » Mais je reviendrai un peu plus tard dans l'émission.
L'anorexie donc est faux concept plus tard à l'émission. Merci Pierre.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
C'est avec joie que j'accueille à nouveau notre collaborateur Jocelyn Moretini. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Yvan.
Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de télépsychologie.
Absolument.
Ça, on veut tout savoir. Le titre nous intéresse. Alors, de quoi il s'agit?
En fait, la télépsychologie, souvent on va penser à de la visioconférence. Les gens vont penser à Skype ou... tous les appareils de communication avec un écran, donc l'image et le son.
Ouais.
La télépsychologie, c'est l'utilisation de cette technologie de visioconférence pour appliquer ça à la psychologie, donc faire vraiment une thérapie, mais à distance. Donc,
okay.
Le patient est peut-être chez lui, dans un autre lieu, le psychologue dans son bureau, et même si on est dans des lieux différents, on fait une rencontre en psychologie.
Est-ce que c'est aussi efficace? On sait toujours qu'une rencontre humaine, bon, ça reste une rencontre humaine, sauf que c'est certain que si quelqu'un est à des kilomètres ou pour X raisons, la personne ne peut pas se déplacer, c'est mieux ça que de ne pas avoir de rendez-vous, finalement. C'est un peu ça, mais...
Tout ça, c'est des bons points. Au début, on croyait justement que ça allait peut-être être très néfaste ou que ça allait peut-être justement diminuer la qualité du rapport. Puis finalement... Il y a eu des études en psychologie pour dire on accepte ou pas une pratique, on doit faire de la recherche.
Ouais.
Et l'alliance thérapeutique, c'est la même. L'efficacité thérapeutique, c'est la même.
Okay.
Donc, il y a pas de, on n'est pas à risque que ça prenne plus de temps, qu'on ait moins de succès en thérapie en utilisant la télépsychologie. Donc, c'est de plus en plus accepté. Par contre, ça doit se faire dans un certain décorum, avec certaines lois. Il y a plusieurs lois qui entourent ça. Et ça, c'est un grand défi, justement, de la télépsychologie, puis il faut le comprendre, ce défi légal. Mais on va l'utiliser pour toutes les formes de psychologie, pas nécessairement pour tous les thèmes. Par exemple, on peut facilement traiter un trouble de stress post-traumatique, une dépression, de l'anxiété, un trouble de personnalité. Mais on peut même traiter des fois des troubles cognitifs. Par contre, on pourrait pas faire une évaluation neuropsychologique à travers la télépsychologie. Parce que quand on fait l'évaluation neuropsychologique, on a besoin de manipuler du matériel, des fois des objets en trois dimensions. Là.
Ouais.
Donc, on ne peut pas tout reposer sur l'écran, et là, ça devient une problématique. Donc, il y a des pour et il y a des contre hein, quand on fait de la télépsychologie. Au début, on avait très peur que le manque de stimuli, de détails, crée cette distance-là. Les gens s'y habituent très rapidement là, à l'intérieur de quelques minutes. Par contre, moi, comme psychologue, je le pratique régulièrement. mais je perds de l'information visuelle sur le corps. Hein. Par exemple, est-ce que le patient tape du pied? Mm-hmm. Est-ce qu'il devient tendu? Il est plus haut, plus bas sur sa chaise? Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Tout ça, je ne peux plus le voir parce que le patient typiquement va cadrer l'image autour de son visage parce que j'ai aussi besoin du détail du visage. Donc, si le patient se met trop ou la caméra trop loin et que je voyais tout le corps, ben, j'arriverais plus bien à distinguer le visage. Donc, on perd un peu cette information-là. Donc, il y a une partie du langage corporel qui est un peu manquante. Mm-hmm. C'est pas la fin du monde, mais ça fait partie des limitations qui existent pour l'instant.
Pourquoi on l'utilise et pourquoi peut-être toi tu l'utilises? Est-ce que c'est des raisons qu'on va parler tantôt, là, de distance, entre autres?
Oui, typiquement, c'est des questions de distance. Des fois, c'est des questions de mobilité. On peut avoir, par exemple, imaginons avec un patient agoraphobe qui respire chez lui. Il n'est pas capable de sortir, mais on pourrait commencer d'abord par des rencontres à distance.
Ouais.
On peut imaginer des gens qui sont simplement dans les régions, qui sont loin et... ils n'ont pas accès donc à de la psychologie ou encore ils n'ont pas accès à un psychologue qui a une spécialité. Donc moi, des fois, je vois des patients d'un peu partout dans le Québec parce que j'ai des spécialités, entre autres, en douleur chronique, par exemple, et ce qui n'est pas nécessairement une majeure pour bien des psychologues. Mm-hmm. Donc, le psychologue qui est dans la région a probablement bien des compétences, mais on ne peut pas être compétent dans tout. Et du coup, pour avoir un spécialiste dans telle ou telle discipline de la psychologie, tel thème, on va pouvoir avoir accès à de l'information comme ça.
OK. Et en général, est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que tu dois limiter les sessions? Parce que peut-être que, justement, le côté technologique, c'est beau, mais à quelque part, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être une distraction, je ne sais pas.
C'est un très bon point. Pour le patient, typiquement, non. On fait des rencontres de 50 minutes, une heure, comme auparavant.
Okay.
Pour le psychologue, moi, d'expérience, c'est un peu plus fatigant.
Ouais.
Donc, si je peux faire 4 patients... En bureau, face à face, ça va me donner un montant de fatigue X.
Ouais.
Mais si je le fais les mêmes 4 en télépsychologie, c'est plus fatigant pour moi. Ça demande plus de concentration parce que justement, je ne peux pas m'appuyer sur autant de détails. Les micros, des fois, peuvent envoyer de l'information qui est un peu qui a une distorsion dedans. Même si ce n'est pas beaucoup, ça va nous amener à devoir se concentrer un peu plus.
Tu peux se penser, est-ce que c'est la voix qui a un certain quelque chose ou c'est juste le micro qui a c'est ça?
Exact.
La voix dit beaucoup aussi. Si la personne ressent des choses, ben, peut-être ça va jouer sur sa voix.
Pour l'instant, les distorsions sont plutôt négligeables. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que pendant 2-3 secondes, l'image tombe ou elle fige. Alors, heureusement, on utilise des programmes justement spécifiques. On ne peut pas utiliser Skype, par exemple, pour faire ce genre de thérapie-là. Mais la capacité, des fois, juste de perdre 2-3 secondes d'image, ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose aussi, des fois, dans le rythme de la rencontre. On perd 10 secondes, puis là, pour de vrai, pendant 10 secondes, il n'y a ni son, ni image. Ben là, on doit attendre et recommencer peut-être un moment où quelqu'un disait quelque chose de sensible dans sa vie. Et là, il faut reprendre la conversation. Donc, il y a des inconvénients, c'est pas parfait. Ça n'affecte pas significativement le résultat. Par contre, ça peut... des fois créer un petit inconvénient, donc un peu plus de fatigue, particulièrement, je trouve, pour le psychologue, parce que lui, il va peut-être s'enfiler ce genre de rencontres-là une après l'autre, contrairement au patient. Le patient lui-même, dans les effets qui ont été démontrés, là, même si c'est la même réussite clinique, ce qui a été vu dans certaines études, c'est que le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de patients qui décident qu'ils ne continuent pas leur thérapie, en télépsychologie, il y en a plus qui arrêtent au début.
Mmh.
Donc, s'ils sont déjà limite, je ne suis pas sûr si je veux faire de la psychologie, à ce moment-là, ils vont peut-être être un petit peu plus tentés d'arrêter plus tôt.
OK. Peut-être que le côté, des fois, technologique les agace. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui veulent justement avoir... Malgré que c'est assez simple, ils s'installent. Puis il y a des consignes assez simples de dire ben, il ne doit pas y avoir des gens alentour, les gens doivent être seuls. Ça reste une consultation aussi privée, quelque part. Là.
Tout à fait. Puis ça, c'est un très bon point. Donc, des fois, les gens sont technophobes, hein, un peu la crainte de la technologie. Étonnamment, il y a des gens, des fois, de très âgés qui vont l'utiliser sans problème.
Ouais.
Mais oui, des fois, c'est s'ils ont le choix, ils vont préférer se déplacer. J'ai des patients qui ont décidé de faire des 2-3 heures de route pour venir faire une rencontre d'une heure et repartir 2-3 heures, et comme ça, à chaque semaine.
Faut le faire. Là.
Faut le faire.
Ouais.
Bon, c'est l'exception, mais
ils aiment le contact humain. C'est ça.
Exact. Donc ça, il faut respecter ça. Il y a aussi la question du décorum. Il faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi cette rencontre-là. Donc, pas de pyjama, pas de petit verre de vino à côté. J'ai eu des patients qui ne s'en sont pas rendus compte. Ils avaient leur verre de vin. Je disais, vous n'auriez pas de verre de vin avec moi dans mon bureau.
C'est
là.
Ça.
Puis vous seriez habillé. Donc, même si vous êtes malade, puis que je vous vois, puis que vous avez des limitations, vous auriez pris le temps de vous habiller. Donc, ouais. Prenez le temps de vous habiller. Pas de bruit, pas de chien, pas de conjoint qui rentre pour vous demander « Il est où le gant de vaisselle? »
ouais, c'est vrai,
c'est
ça peut
des
se
détails,
passer.
Hein, mais des fois, ça c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants parce que si ça crie derrière, vous n'allez pas vous concentrer.
Ouais.
Donc, il y a plus de détails. Il y a des détails légaux aussi pour le psychologue. Il faut s'assurer d'avoir une confidentialité de la communication électronique. Ouais. Donc, on utilise certains programmes.
Donc, c'est pour ça que tu disais que ce pas des programmes grand public. Là. C'est des programmes spécifiques où il y a une sécurité peut-être plus accrue. Là.
Typiquement, oui.
Ouais.
Il existe quelques programmes grand public, version gratuite, qui répondent aux normes HIPAA, par exemple aux États-Unis, qui est une loi sur le télétraitement et tout ce qui est technologie dans le domaine de la santé. Le Canada n'a pas de loi aussi détaillée, mais le Canada, le Québec a aussi ce genre de loi-là. Par contre, c'est nouveau et on a une grande problématique, c'est au niveau légal, est-ce que le patient vient dans le bureau du psychologue ou est-ce que c'est le psychologue qui se déplace dans le lieu du patient.
Ouais.
Et ça, c'est une implication parce que, par exemple, d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre, on n'a pas les mêmes permis de pratique. Moi, je n'ai pas le droit d'aller travailler aux États-Unis. Par contre, si mon patient s'en va faire un voyage aux États-Unis, puis pendant 3 semaines, ou même il s'en va travailler pendant 6 mois, il veut continuer sa thérapie, ben, je vais continuer à devoir, est-ce que j'ai le droit? Et si je fais une faute professionnelle, qui est en cause, la loi américaine ou la loi canadienne?
C'est un peu une zone assez grise.
C'est très gris parce qu'en fait, d'un état à l'autre, on n'a pas la même perception. Donc, peut-être dans l'état A, ils vont dire c'est le patient qui se déplace, puis dans l'état B, ils vont dire c'est le thérapeute qui se déplace. Et imaginons maintenant une situation où tous les deux ont une vision légale opposée.
Ouais.
On n'y arrive pas. Et inversement, dans d'autres endroits, c'est toujours, par exemple, telle situation. Mais si le patient ou le thérapeute est en vacances ou pour une période exceptionnelle se déplace, à ce moment-là, c'est permis. Alors moi, par exemple, l'ordre des psychologues me donnerait le droit d'aller en Colombie-Britannique puis voir un patient au Québec. Mais la Colombie-Britannique ne me le permet pas. Donc, je ne serai pas poursuivi par l'ordre, mais je vais être poursuivi par l'ordre Colombie-Britannique. C'est un peu compliqué.
C'est effectivement. Est-ce que c'est pas enregistré, les conversations, j'imagine?
L'enregistrement, c'est non, mais à partir du moment où on fait de l'enregistrement, c'est comme pour n'importe quel enregistrement, il faut avoir une autorisation écrite.
Parce que dans le fond, c'est comme si tu avais une rencontre à un bureau. En principe, tu vas prendre des notes, mais il n'y aura pas d'enregistrement. C'est un peu le même. C'est comme si c'était une rencontre au bureau, mais à distance par la technologie. Là.
Tout à fait.
Ouais.
Et donc, on a quand même un cadre légal qui est exactement le même.
Ouais.
Des fois, il ne faut pas non plus se laisser prendre par l'idée qu'on est confortable, on est assis. Non, on est en thérapie, c'est les mêmes objectifs qu'auparavant. Mais on a aussi des fois les mêmes problèmes culturels. Alors, par exemple, il y a eu des études sur les Premières Nations du Grand Nord, à savoir s'ils étaient ouverts à cette technologie-là. Et c'est oui, c'est non. Donc, la technologie n'est peut-être pas une limitation, à part qu'ils n'ont pas nécessairement des bandes passantes très élevées, des fois, à cause de la distance. Mais il y a aussi une crainte peut-être de l'homme blanc, de la psychologie. Et ces craintes-là, qu'on soit en télépsychologie ou pas, existent et vont donc se transférer à travers le médium électronique. Donc, on a plusieurs petits détails, mais de façon générale, c'est une belle technologie qui nous permet d'accéder à des patients qui n'auraient pas de service. Et ça, pour moi, je trouve ça magnifique.
Et tu disais souvent parler dans des chroniques, puis tu disais, tu étais quelqu'un de technologique, tout ça, puis quelquefois, oui, la bonne vieille rencontre face à face. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves que ton travail va en amener encore plus? Est-ce que tu vas agrandir, en fait, ton pourcentage d'appareils technologiques qui vont t'aider dans le futur?
Absolument. En fait, d'année en année, cette proportion-là a augmenté.
Et t'aimes ça, là?
Moi, je trouve ça très pertinent. J'ai des patients, en fait, qui ont accès à des soins spécialisés. Et pour ce qui est d'en faire beaucoup, il y a aussi une limite personnelle. À un moment donné, on ne veut pas non plus trop se fatiguer, comme on en discutait tout à l'heure. Mais la qualité de l'image est de plus en plus grande. Les bandes passantes sur Internet sont de plus en plus grandes. Donc, il y a de moins en moins d'erreurs. C'est de plus en plus facile.
Puis on se rend compte quelque part que l'efficacité de ça, tu sais, je veux dire, un patient dirait, ben, je peux pas y aller, il y a une tempête de neige. Là, tu peux effectuer un suivi alors que tu n'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas eu cette technologie-là. Là,
littéralement, ça m'est déjà arrivé.
Ouais.
Et puis, je me rends compte aussi que je peux faire des choses que je ne croyais pas possibles. Par exemple, j'ai déjà fait des séances d'hypnose en télépsychologie.
Ah,
donc,
oui.
Le patient est chez lui. Même si je ne suis pas à côté, il m'écoute dans son casque d'écoute.
Et ça marche.
Ils vont en hypnose. Et je peux faire mon traitement, par exemple, sur la douleur à travers une hypnose, ouais. Malgré des centaines de kilomètres qui nous séparaient.
C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Jocelyn. Tu es neuropsychologue. Puis c'est toujours intéressant d'écouter tes propos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. Puis à une prochaine.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Syntonisez Folie Douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
C'est le bloc espresso allongé, donc le sujet entamé plus tôt, Pierre, anorexie et faux concept.
Oui, anorexie et faux concept, parce qu'il y en reste encore beaucoup de faux concepts et beaucoup de choses, d'après ce que je peux voir, là, découvrir.
Des préconçus, peut-être des tabous.
Oui, c'est assez complexe.
Ouais.
J'ai trouvé un autre article sur le web qui s'appelle « Anorexie, 5 idées fausses sur ce trouble du comportement alimentaire
».
C'est écrit par Mme Sarah Terrien, qui est psychologue et journaliste française. Elle nous dit « L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire relativement rare ». Mais aux lourdes conséquences. Aujourd'hui encore, les patients doivent faire face à de nombreux faux concepts. Alors ici, elle nous en apporte 5.
Ouais.
Alors, j'aimerais jouer avec toi. On va faire un quiz, si tu veux bien.
Pour vrai?
Oui, oui.
Ben, OK.
Je vais te lire 5.
Est-ce un prêt gagné?
Juste admiration.
Oh, juste admiration. Okay. On va essayer.
Alors, je vais te lire 5 énoncés.
Ouais.
Et toi, tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux.
OK, tu vas nous donner la bonne réponse.
Ouais, ouais.
Okay.
Alors, mais je n'ai pas de buzzer avec
non,
moi.
Non,
j'ai pas
c'est
de...
ça. On va y aller soft, là, de ouais. façon.
Premier énoncé, il existe un seul type d'anorexie.
Ben, je dirais que c'est faux.
C'est faux, exactement, oui. Dans un rapport sur l'anorexie mentale, la Haute Autorité de Santé en France explique qu'il existe deux formes d'anorexie. L'anorexie mentale restrictive, où le malade développe des conduites de fortes restrictions alimentaires, et l'anorexie mentale avec crise de boulimie qui se traduisent par des vomissements volontaires, l'utilisation de laxatifs à outrance ou encore l'hyperactivité physique. La personne atteinte d'anorexie peut être sujette aux deux formes de la maladie en passant d'une forme à l'autre. Deuxième énoncé, l'anorexie touche uniquement les femmes.
Je dirais que non.
C'est faux.
Parce qu'il y a un peu d'hommes aussi, ouais. en moins grande quantité, mais ouais. je pense.
Ouais. Bon, on en a parlé un peu tantôt.
C'est ça.
Oui, oui c'est faux. Ce trouble du comportement alimentaire affecte majoritairement les femmes. Mais les hommes peuvent également être malades. L'anorexie mentale touche un garçon pour 10 filles. Les causes sont différentes selon le sexe. De ce fait, le trouble alimentaire est plus difficile à détecter chez les hommes. Souvent, le sujet masculin ne veut pas prendre du poids, non pas pour être mince, mais pour se muscler. Il pratique beaucoup d'activités sportives et continue à manger, mais de manière restrictive. Comme une femme atteinte d'anorexie, il est atteint de dysmorphophobie. Et ce nom-mot veut dire qu'il est obnubilé par son corps qu'il ne trouve pas assez musclé. Troisième énoncé, seuls les jeunes peuvent être anorexiques.
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, je vais dire non.
C'est faux.
C'est faux.
Oui, hein. Tu as raison, oui. L'anorexie mentale survient généralement chez les adolescents pré- ou post-pubères. Entre 70% des patients ont moins de 25 ans. Les adultes et personnes âgées peuvent être atteints. Il est courant qu'en fin de vie, les seniors refusent de s'alimenter. Ce trouble alimentaire peut conduire à une dépression, un syndrome de repli ou un état délirant.
C'est vrai qu'on entend rarement ouais. ça. C'est pour ça qu'on a tendance peut-être à dire ou, que c'est juste pour les jeunes ouais. ou en tout cas certaines personnes plus
ben,
jeunes.
On hein. sait maintenant que c'est faux.
Ouais, c'est faux.
Quatrième énoncé, l'anorexie peut entraîner une absence de règles.
Je dirais que oui.
C'est vrai, oui.
Ouais, c'est vrai.
Pour diagnostiquer une anorexie, les médecins essaient de repérer les 3A, ce qu'on appelle les 3A, restrictions alimentaires parfois justifiées par une perte d'appétit. A pour amaigrissement et aménorrhée. Donc, ça, en fait, le premier A, c'était pour l'appétit.
Ouais.
Alors, le dernier A, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles depuis au moins 3 mois. Elle est l'un des 3 principaux symptômes qui traduit un trouble du comportement alimentaire chez une femme. À quoi est-elle due? Les personnes anorexiques sont sous-alimentées et donc carencées. Plusieurs hormones sont produites et libérées grâce aux nutriments, c'est-à-dire à travers les protéines et les vitamines. Souvent, l'aménorrhée est passée inaperçue car les patientes prennent la pilule qui leur donne de fausses règles.
Ouais.
Et dernier énoncé, on guérit de l'anorexie mentale.
Moi, je dirais qu'on ne guérit pas parce que... En tout cas, je dirais non.
Tu dirais non? Ben, c'est vrai.
C'est vrai qu'on guérit?
Oui, okay. oui. On a dit que la phase anorexique dure en moyenne entre 1 et 3 ans et peut aller jusqu'à 5 ans. Selon l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, après 5 ans d'évolution, 2/3 des cas sont guéris. La moitié des personnes soignées pour anorexie mentale dès l'adolescence retrouvent le chemin de la guérison. Cette maladie peut entraîner la mort, mais c'est très rare, 5 % des cas. Souvent, il s'agit de complications telles qu'un arrêt cardiaque, le suicide étant l'une des causes principales de mortalité chez les personnes anorexiques, c'est-à-dire 27 %.
Beaucoup, quand même.
Et en terminant, j'aimerais... parler l'organisme qui s'appelle ANEB.
Oui, bien connu, là, ici
ouais,
au Québec.
On les a déjà reçus ici à l'émission. Ouais. ANEB pour Anorexie et Boulimie Québec. C'est un organisme dont la mission est de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble du comportement alimentaire et à leurs proches depuis maintenant 30 ans. L'organisme aide à prévenir et à diminuer les conséquences liées aux troubles de l'alimentation. Ils ont une ligne d'écoute, c'est le 1-800-630-0907 et on peut les rejoindre aussi au 514-630-0907. 0907. Ils sont situés à Pointe-Claire.
Ils peuvent donner un paquet de ressources, de renseignements, de, effectivement, sur les problématiques d'anorexie et de boulimie. En
on peut les rejoindre par Internet. Alors, info, art commercial, ANEB, Québec, toutcollé.com.
Ben, merci beaucoup, Pierre. C'est intéressant. Puis, bon, je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'avais pas de réponse devant moi. Pourquoi j'ai répondu non, ça ne se guérit pas? Parce que je pensais à la santé mentale. Souvent, on dit qu'il faut vivre avec, il faut l'accepter. Je suppose que c'est dans ce sens-là, mais c'est un peu piège.
Ben,
moi
aussi, je n'étais pas certain si on pouvait guérir complètement.
Mais c'est une bonne nouvelle, en tout cas, que ça peut. Merci beaucoup, Pierre. Anorexie et faux concept à Folie douce.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine.
Oui.
On a entendu en début d'émission Candide de Croche.
Oui, de Thérapie Taxi.
On a pu entendre Rentrer chez moi.
De Andy Saint-Louis.
Dans la deuxième demi, Demande-moi.
De Maude Audet.
Et je te demandais pas, demande-moi la chanson, c'est vraiment le titre. Et à l'instant, Vérité.
De Claire Lafut.
Une belle chanson, finalement, ouais. Ça, j'aime bien. Alors, merci beaucoup pour le choix musical, Pierre, et la mise en onde également.
Bienvenue.
Et pour ton sujet, anorexie et faux concept, on a appris beaucoup de choses, hein, vraiment la démystification de l'anorexie.
Ouais. De plus en plus.
Oui, oui, absolument. Notre invitée en début d'émission, Céline Lamontagne, nous a parlé du coffret 1000 mots de voyage qui a été produit par les Impatients. Notre collaborateur, Jocelyn Moretini, nous a amené son sujet, la télépsychologie. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.